voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à la chanteuse Juliette Gréco, récemment disparue. Nous l'écoutons au micro d'Hélène Azéra en 2001. Ce soir, pas de révolution sans chanson.
La révolution a toujours demandé à la rue de la chanter. Et la rue a toujours chanté la révolution. Il n'y a pas de révolution sans chanson. Il n'y a pas de progrès sans chanson. Il n'y a pas de fenêtre ouverte dans les petites maisons où vivent les gens d'une manière un peu chiche. La misère a toujours été chantée. L'amour a toujours été chanté. Toutes les sortes d'amour. La vie populaire, la vie normale, la vie de chaque jour a toujours été chantée. Donc c'est une chose très, très importante. Enfin, pour moi, c'est la voix du peuple.
Alors, une façon de voir l'importance d'une chose, c'est la censure qui s'abat dessus. Et là, j'ai entre les mains le petit tiroir Gréco dans le fichier des chansons par interprète de la maison de Radio France. Alors, c'est un vieux fichier.
Oh bah oui.
Et dessus, sur certaines chansons que j'ai relevées, il y a un délicieux petit tampon avec écrit « Radiodiffusion interdit par le comité d'écoute ». Alors là, par exemple, c'est une chose assez assez amusante et assez intéressante pour qui s'intéresse à la censure, c'est « À la belle étoile », une chanson de Prévert absolument magnifique qu'il avait écrit, je crois, pour Florel.
Encore un sale loupin qui vient manger notre pain.
Voilà.
Et c'est un monsieur, très bien. Et
alors,
ça part de là.
C'est une chanson qui est tout ce qu'il y a de plus antiraciste. Ouais. Et sous prétexte qu'il y avait le mot youpin, contre lequel évidemment Prévert s'insurgeait, elle était interdite par le comité d'écoute. C'est vraiment bien, les bien-pensants, ils sont parfaits.
Oui, alors ils là, sont toujours là.
Il y a une autre chanson avec le petit tampon radiodiffusion interdit par le comité d'écoute. C'est « L'amour à la papa » de Serge Gainsbourg.
Non. Ah, les pauvres refoulés. Les pauvres chats. Mais je les plains sincèrement. Là, j'ai comme une pitié.
Alors, celle-là, elle est rigolote. C'est le chant d'Ernagore de Guy Béard. Elle avait le Yanaon.
Le Yanaon de Cocagne.
Il y a le tampon interdit d'écoute. Et ensuite, il y a écrit après minuit. C'est-à-dire qu'on avait le droit de passer la chanson
à des cochonneries.
Seulement après minuit.
Allez. Allez. Ils m'ont fait ça aux États-Unis aussi, avec une chanson qui n'avait pas de parole.
La valse des si.
Voilà.
Et une musique d'Henri Sauguet.
Oui. Et ils ont interdit cette chanson sans parole parce qu'ils trouvaient que je me conduisais d'une manière absolument dégoûtante.
C'était trop suggestif.
Oui, oui, oui.
Gainsbourg l'a refait, ça, le coup des...
Le coup des... Là.
Si. Là, je m'étonne, pourquoi les cimetières militaires, par exemple, n'ont pas été interdits?
Une chanson magnifique. Ah, ça, c'est gonflant, ça. Ah,
oui. De Louki, mais peut-être c'est une époque plus moderne, elle date de 70, où la censure n'osait plus avouer son nom.
Ah oui, ça devait être... Alors, ils ont eu un coup de mou, là.
Raymond Queneau, grâce à vous, a connu les honneurs de la censure, puisque la complainte, mais je crois le texte original, c'est la complainte des cons.
Oui.
La complainte des cons.
Toujours d'actualité.
Et interdite d'écoute, oui, plus que jamais d'actualité.
Oui.
Puis Guy Béard. La jambe de bois de Serge Gainsbourg.
Ah oui, antimilitariste.
Interdit d'écoute.
Oui.
Antimilitariste.
Ça marche toujours, ça.
Mes chères maisons de Bernard Dimet. Alors c'est drôle, c'est quand ils interdisent en général des bonnes chansons.
Bah oui, qu'est-ce que ça. Parce que ça parle d'un
c'est
bordel.
Un peu immoral. C'est ça.
Ah oui.
Encore une autre interdite, c'est la propriétaire de Yvan
Edouard.
C'est
parfaitement amoral, ça, oui. Oui. C'est assez jouissif à chanter, mais c'est tout à fait amoral, oui. Tout à fait.
Vous appreniez que telle ou telle chanson ne passait pas?
Non, bien sûr que non. Je savais qu'il y avait beaucoup de chansons qui ne passaient pas, mais je ne voyais pas le point. Je ne me rendais pas du tout compte que c'était pour... Si, Maréchal nous revoilà. Ça, c'était bien. Il n'y a que Bouteiller qui l'a passé. Parce que Pierre n'a peur de rien. Donc Pierre, il a passé ça tranquillement et plusieurs fois. Mais je sais, quelqu'un m'a dit qu'il faisait partie de ce comité d'écoute, en tout cas de la direction de la maison, je sais qu'on leur a dit souvent, Gréco, oui. Oui. Enfin, vous prenez vos responsabilités, ce n'est pas conseillé. Ce que j'ai trouvé d'une perfidie, mais somptueuse.
Quand est-ce que vous êtes aperçu que vous aviez pas tout à fait le même organe que tout le monde?
Très vite.
Dans le cœur d'enfant, vous avez dû vous dire, vous avez la voix trop grave.
Oui, ou... oui je ne plaisais pas beaucoup. Je ne plaisais pas beaucoup. J'avais une voix bizarre. Et forte. J'avais une voix forte.
C'est en arrivant à Saint-Germain-des-Prés, après cet épisode terrible de la guerre, qu'on commence à vous parler de l'intérêt de votre timbre.
Oui. Oui, c'est Aubrady. C'est Aubrady, dans cette pension de famille, qui me faisait chanter, qui aimait ça. Qu'est-ce que je chantais? Je ne sais plus.
Il n'y a plus, pendant l'occupation, la chanson dans la rue, les gens qui chantent.
Non, plus personne ne chante.
Ça a disparu, ça.
Non, plus personne ne chante.
C'est une chose qui reviendra à la libération.
Et comment? Et comment? Et de nouveau, on voit des petits formats, et de nouveau, on voit des accordéonistes, et de nouveau... Mais la rue était morte. On chantait en secret. Moi, je voulais être comédienne, puisque je ne pouvais plus être danseuse. Donc, je voulais être comédienne. Mais chanter me semblait inaccessible. Or, Sartre a décidé, avec Anne-Marie Casalis et Marc Donlitz, ils ont dit, mais pourquoi Gréco ne chante pas, dit Sartre, qui se mêlait de tout. Et pourquoi Gréco ne chante pas? Ils nous invitent à dîner. Ils avaient fait ça dans mon dos, tous les trois. Donc, Sartre, malin comme un singe, nous invite à dîner à la Cloche d'Or. On monte tous à pied tranquillement, on bavarde, on était avec Jacques-Laurent Bost. Et moi, j'étais avec Bost et je parlais avec lui. Bost ne m'a rien dit. On dîne, tout ça se passe très bien. Et on redescend. Et en redescendant, Sartre me dit « Alors Gréco, vous allez chanter ?» Je dis « Comment je chantais? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je dis « Pas du tout, parce que je ne chante pas. » « Si, 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 vous allez chanter, mais vous chantez très bien. » Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez comme chanson? Je dis « Ah, mais il y a une chanson que j'aime bien, qui s'appelle « Les feuilles mortes ». Elle me dit « Vous aimez Cosma ?» Bon, je vais vous donner des livres. Je vais vous faire un petit choix, et puis vous venez demain matin, chez moi. À quelle heure? Bon, vous venez à 9h. Oui, je me suis levé tôt. Je suis arrivé chez Sartre, j'ai sonné à la porte, je suis entré, il était au milieu d'un... Il travaillait déjà depuis très très longtemps, depuis certainement au moins 3 ou 4 heures. Et il travaillait comme un fou. Il avait quand même pris le temps. Et c'est ça qui est merveilleux chez cet homme. Et c'est ça que je n'oublierai jamais. Que d'un... Un parfum pour moi qui revient presque tous les soirs quand je chante. Il avait fait un petit tas de bouquins. Et je prends ça. Il me dit, vous lisez ça, vous me rapportez mes livres demain matin. Bien, monsieur. Sur ce, je reviens le lendemain matin. Et il me dit, vous avez choisi quoi? J'ai choisi L'Éternel féminin, et puis de Jules Laforgue, et puis j'ai choisi un poème de Raymond Queneau qui s'appelle Si tu t'imagines. Ah, il me dit, vous avez choisi Laforgue? Ah, il m'a dit, je suis très content de votre choix, parce que Simone de Beauvoir, vous savez, elle cite dans un livre qu'elle est en train d'écrire,
c'était le deuxième sexe.
elle cite cette chanson. Ah, ben elle va être très contente, tiens, du Rocastor. Voilà. Bon, il m'a dit, puisque je suis très content de votre choix, je vais vous donner une chanson que j'ai écrite, et puis comme c'est moi qui ai fait la musique, c'est une sorte de mélopée arabe tout à fait ridicule, j'aurais dû lui demander de l'écouter. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas osé. Je vais donc donner tout ça à Cosma, puisque vous aimez Cosma, et j'arrange un rendez-vous avec Cosma. Et voilà. Or donc, voilà, je suis arrivé, et puis il y avait un petit piano droit, tout petit, dans un coin. Et il faisait très chaud, puis il y avait des abeilles. Il nous a offert un peu de Porto. Et les abeilles sont arrivées comme des folles, parce qu'elles sentaient l'odeur du sucre. C'était très joli. Et il était... tout massif comme ça dans cette pièce minuscule. Il a commencé à me jouer « Si tu t'imagines ». Il l'a vu la veille. Et ensuite, il m'a dit... je lui ai dit « Mais comment est-ce que vous avez fait pour faire si rapidement cette chose ?» Il m'a dit « J'avais un exemple à la maison. » Et c'était assez cruel. Voilà.
Ah oui, l'exemple, c'était que...
Sa très vieille femme qui avait tout supporté, tout qu'il avait aimé, et qui continuait de l'aimer. Et lui, il ne l'aimait plus. Il en aimait une plus jeune et plus belle. C'est assez cruel. Et il m'a dit, vous jouez du piano? Non. Vous lisez la musique? Non. Bon. Alors, il s'est mis au piano, il a joué. Et puis comme j'ai une oreille comme une poubelle, c'est entré tout de suite. Et j'ai retenu ça très très vite. Et je commençais 3 jours après. J'ai monté mes petites marches. J'ai commencé très fort. Et puis après ça, il a fallu que... J'ai commencé devant 500 personnes, 300 personnes. Et il a fallu que je gagne tout le reste du monde.
C'est une époque où, à Paris, chaque soir, on peut écouter une cinquantaine ou une centaine de chanteurs et de chanteuses.
Ça fleurit partout. Toutes les nuits sont en chanson. Les nuits sont en musique.
Est-ce que vous alliez écouter les autres ?
Peu. La seule fois où j'ai entendu Piaf, sur scène, je suis entrée au culot au Casino de Cannes. J'avais des sandales dorées quand même. J'avais un pantalon en chandail, mais j'avais des sandales dorées. Donc je trouve ça furieusement élégant. Je me suis dit, ils vont pas me jeter dehors. J'ai des sandales dorées. Ça... je suis donc entrée avec mes sandales dorées. Et j'ai dit au maître d'hôtel, est-ce que je peux me mettre dans un coin ? Le maître d'hôtel m'a dit, oui, mademoiselle Gréco. Là, dans ce coin. C'était vraiment un tout petit coin où personne ne me voyait. J'étais toute seule, comme toujours. J'étais toute seule. Et j'ai vu arriver cette minuscule femme contre le ciel, là, avec des étoiles partout. Et puis je l'ai entendu chanter et je l'ai trouvé magique. Voilà. J'étais très émue.
Là. Attends, il y a beaucoup de choses de son répertoire que vous...
Que je déteste.
Que vous aurez trouvé ridicule.
Ridicule, ou... mais oui. Mais elle, non. Ça m'est égal, moi. Elle me chantait n'importe quelle connerie. On oublie complètement. Il se passe quelque chose sur la scène. Il se passe quelque chose.
Et il y a la gestuelle aussi.
La gestuelle, la voix. La voix. Et même parfois fausse. Je chante parfois faux. Et ça n'a aucune importance. Il y a un vibrato. Il y a une force. Il y a une puissance. Il y a la magie. Et puis cette espèce de regard tourné toujours vers le haut, c'est très beau.
Les studios de la maison de Radio France ont leur charme, mais il y a d'autres demeures qui ont leur charme, et la vôtre en a beaucoup, et vous avez eu la gentillesse de nous inviter chez vous pour continuer cet entretien, et on vous remercie. Nous parlions de chansons, et vous nous parliez notamment d'Édith Piaf, et de combien vous estimiez, peut-être même plus, sa présence et son talent sur scène. Avec les femmes, elles pouvaient être très dures et ne pas les voir comme des collègues, mais comme des concurrentes.
Uniquement. Avec une sorte de côté tentaculaire, elle s'installait comme ça, comme une pieuvre. Elle attrapait les filles, elle les amenait à elle, et quand elle sentait le danger... Et elle les tuait. Sa cancelle rose rouge, où elle m'a fait contacter par Barrier, comme toujours. Un Barrier venu me voir, il m'a dit, vous savez, Piaf voudrait beaucoup vous voir, Edith vous adore, etc. Et j'ai senti comme un malaise. Parce que quand on aime quelqu'un, on vient lui dire soi-même. Et on vient assister à ses tours de chant. Et là, elle m'a fait mander. Et je ne la connaissais pas du tout. Je ne connaissais que ses disques. J'avais une admiration absolument éperdue pour elle. Mais la femme ne m'attirait pas. Donc je n'y suis pas allée. Je ne suis pas tombée dans le piège. Ma vieille éducation bourgeoise reprenant le dessus, j'ai dit non, merci. Non. Et un jour, je suis allée la voir à Deauville, après, très très longtemps après. Elle était très mal, très malade, elle avait chanté d'une manière extraordinaire. Je volais déjà avec mes petites ailes. Mais elle m'a regardée d'une manière tellement féroce. C'était une rencontre assez déplaisante, assez déplaisante. J'ai eu le bonheur de voir arriver à la Rose Rouge à Aznavour, qui m'a proposé « Jouer les dimanches ». En me disant, Edith n'en a pas voulu, est-ce que tu en veux ? Ou est-ce que vous en voulez ? Je ne sais plus. Et puis j'ai lu et j'ai dit oui, immédiatement, que oui. Et il m'a dit, mais c'est pour un concours, c'est dans 8 jours, et c'est à Deauville. Et j'ai appris après que c'était le prix Piaf. J'ai gagné. Et alors, elle est entrée dans une colère folle. Charles m'a dit qu'elle avait été vraiment, qu'elle lui avait fait un scandale épouvantable. Et en, elle l'a chanté, elle l'a enregistré surtout. Je sais pas si elle l'a chanté, je crois pas. Mais elle l'a enregistré. Et les critiques n'ont pas été très bonnes. Donc, ça a été, mais chaque fois que je m'approchais d'elle, il y avait un problème négatif. Donc, je ne l'ai pas rencontrée, je ne le regrette pas. Je garde d'elle ce qu'elle a de meilleur, je pense. C'est-à-dire son génie, c'est-à-dire sa présence en scène et ce rayonnement et cette voix fabuleuse.
Et puis une vie vouée à la chanson.
Une vie vouée à la chanson et à l'amour physique, ce qui est assez remarquable.
Alors, quand on réécoute vos chansons, on s'aperçoit que vous avez beaucoup chanté l'amour physique. Mmh. Mais ça n'est, il y a de l'humour, mais jamais de grivoiserie. Et souvent, c'est extrêmement sérieux. C'est vraiment sérieux comme le plaisir.
C'est parfois sombre. Parfois sombre, le plaisir. Pas toujours ensoleillé. Rarement, même. Rarement. Le plaisir, c'est une chambre close. C'est un secret. Donc, je le chante comme je le sens. Mais c'est vrai que j'aime en parler.
Et il chantait.
Oui. Pardon, mais c'est ce que je voulais dire. J'ai tellement l'habitude de m'accrocher aux mots que je ne sais pas que je chante quelquefois.
Ça vous amuse d'attaquer les tabous un petit peu?
Je n'aime que ça. Je n'aime que ça. Je n'aime que foutre le feu. C'est vrai. Les institutions me semblent un peu trop solides. Il faut dire la vérité. Il faut la peindre, il faut la chanter, il faut la sculpter, il faut la dire.
Et de la même façon, vous parlez de la mort.
Et mais là, vous avez... c'est la vie. Mmh. C'est la vie.
Mais j'arrive, quand vous chantez, j'arrive en scène. Vraiment, on sent que le public retient, retient sa respiration.
Les gens pleurent, et moi souvent. Et c'est normal, parce que c'est un problème qu'il faut aborder absolument. Il faut en parler. Ça fait si peur. Les gens ont si peur de mourir. Moi, j'ai pas peur du tout. Mais j'ai une colère. J'ai une colère quand les gens meurent. Donc, j'en parle. J'en parle avec colère. Mais pas avec peur. Il n'y a que la vie qui me fait peur.
Alors, on va parler un petit peu de vos auteurs.
Macorlan, moi, j'adore. D'abord, c'est un personnage magnifique. Entièrement construit à coup de rêve et d'imagination. Pourquoi est-ce qu'il avait un petit béret écossais avec un pompon? Alors que je ne suis pas sûre du tout qu'il soit jamais allé en Écosse. La première fois que je suis allée chez lui, j'ai frappé à la porte et j'ai entendu « Entrez !» Je lui ai dit « On le voit, Macorlan, quand même. » Macorlan vient, il ouvre la porte et j'entends « Bonjour !» C'est un perroquet.
Ce sont des chansons qui sont en même temps très précises et très mystérieuses. Il vous donnait les clés des chansons ou c'était à vous de vous débrouiller?
Je demande. Kitsch Siska est dans la plaine, son linge ne séchera pas. Il y a des choses tout à fait curieuses. C'est tout plein de brume. C'est brumeux comme la Hollande, quoi. C'est très étrange. Des histoires tellement fortes, des choses de crime, de sang, et qui passent comme ça. Il a tout construit. Il avait un sens théâtral des choses. Extraordinaire. Moi, j'ai toujours pensé qu'une chanson, c'est une pièce de théâtre extraordinairement bien faite, en 3 actes ou 4 actes, c'est selon, avec une progression théâtrale. Sans ça, c'est pas une chanson. Enfin, pour moi.
Et avec Macorlan...
Ah ouais, c'est formidablement bien construit.
J'aime bien les chansons que Sagan a écrites pour vous.
Moi aussi.
Parce qu'elles sont parfumées de l'amitié qu'elle vous porte.
Bon, Sagan est la personne que je préfère, je crois. Elle a tout. C'est-à-dire qu'elle a l'humilité, la drôlerie, l'amitié, la générosité, l'intelligence, la culture.
Le sens du petit détail.
Oui, quand on parle de la petite musique de Sagan, ça m'énerve, mais c'est quand même vrai. Elle a sa petite musique propre. Et l'œuvre de Sagan est assez mal connue. C'est un auteur de théâtre remarquable aussi.
Vous êtes, par exemple, je crois, la seule chanteuse à qui Brassens a écrit spécialement une chanson.
Ça s'appelle Le Temps Passé. Ça s'appelle Le Temps Passé. Il m'aimait bien, Georges. Il m'aimait bien. On dit qu'il était misogyne, je ne m'en suis jamais aperçue. Il a fêté un anniversaire, je ne me rappelle plus lequel, c'était 35 ans, quelque chose comme ça. Enfin, un chiffre clé, genre 35 ou 40 ans, je ne sais plus. Et Kennedy me dit, écoutez, Georges, je voudrais beaucoup que vous veniez à son anniversaire. Je dis, avec plaisir. Et j'arrive, peu importe, il n'y avait que des mecs, que des hommes. J'étais la seule femme. Il y avait, je ne sais pas, 50 personnes. Il y avait une femme. Je n'ai rien dit à Georges. Je me suis dit, c'est incroyable, c'était absolument inouï. Pourquoi moi? Il a été très étrange avec moi, Georges. Il a eu des rapports très curieux. Il a dit à Canetti, quand nous avons fait Chaillot ensemble, Canetti lui a dit, bien, Georges, alors, qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce qu'on fait l'affiche? On met Gréco en premier. Canetti est tombé raide. Raide. Il ne s'attendait absolument pas à une chose pareille. Et moi non plus, je dois dire.
Alors, dans les auteurs, il y a Ferré, bien sûr. Comment ça se passait? On prenait rendez-vous avec Juliette Gréco pour lui amener quelque chose?
Premier rendez-vous, quand j'ai débuté tout à fait, c'était à La Rose Rouge, où Ferré jouait au piano et chantait.
Et c'était très très dur pour lui. C'était un très mauvais moment.
Oui, extrêmement difficile. Moi, j'avais une passion pour lui, que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis, un jour, il m'a dit, viens me voir. Je dis oui, très bien. Très bien, Léo. Oui. Et je suis allée chez lui, boulevard Gouillon-Saint-Cyr. Et puis je suis entrée dans le salon, qui était petit. Il y avait un grand buste de Beethoven et un singe, habillé en marin. Voilà, il avait un costume marin. Un peu surprenant, mais bon, quand il était mignon, il sautait partout. Et Léo m'a dit, je viens de faire un truc... J'ai joué. Et c'était joli môme. Il m'en a envoyé une. Ça, je sais qu'il l'a fait pour moi. Je le sais. Parce qu'il me l'a envoyé sur le France. En Bellino. Et cette chanson, c'était une chanson qui disait « Profitons de tout tout de suite parce que je vais bientôt mourir et que tous ces garçons qui me tiennent dans leurs bras ne voudront plus de moi après. » C'est une très belle chanson. Très, très belle.
Alors, on va passer à un autre nom.
Mais Brel, alors, ça a été comme ça
Brel,
aussi.
Brel, ce qui est étonnant, c'est que vous chantez le Brel de l'époque, je ne dirais pas où il n'avait pas de talent, mais d'une époque où son talent était extrêmement discuté, où personne ne voulait de lui. Et puis même, vous chantez le Brel qui est quand même encore un peu cateau. Ça va, c'est un peu une chanson...
Oui, l'abbé Brel, comme disait Georges.
Voilà.
Mais, non, c'est... J'ai chanté Le Diable, il est venu à la maison, et j'habitais rue de Berry à ce moment-là, et j'ai vu arriver un loup, affamé, avec des grandes dents, des grandes pattes. Et au bout des pattes avant, il y avait, dans la patte avant droite, il y avait une guitare. Et il a souri comme un loup, et il est allé s'asseoir comme un fauve au piano, et il a chanté comme un fauve. Et je me suis dit, il a quelque chose dans le regard qui fait qu'il va tout tuer. Et tout ce qu'il a chanté, il y avait des choses très très belles. Toutes les choses un peu cateau d'ailleurs, tant qu'on a que l'amour. Hein. Bon. Et autres. Mais il y en avait une qui était difficile, et violente et visionnaire. Et qui s'appelait Ça va le diable. Je lui ai dit, écoutez, moi je ne chante pas. Vos chansons, vous les chanterez beaucoup mieux que ça, vous-même. Donc, je suis un petit peu connue, je prends la plus difficile, celle qui est que vous ne pourrez pas défendre, mais moi, je vais la défendre. Et cette chanson, qui s'appelle « Ça va le diable », je suis partie en tournée avec. Et tous les soirs, chaque fois que je commençais à chanter « Le diable », quelque chose se passait. Une lampe éclatait, le vent se levait, il y avait une tempête de sable... À tous les coups, quelqu'un tombait. Je commençais à trouver ça absolument effrayant. Mais j'ai continué. Et la chanson est devenue très célèbre, très. Et Jacques est devenu le plus grand.
Alors, il manque un quatrième nom. sur les quatre as, hein, c'est Gainsbourg.
Ah, Gainsbourg. Gainsbourg, c'est... Gainsbourg. D'ailleurs, tous ces mecs que tout le monde trouvait moches, moi, je les trouvais magnifiques. Je les trouvais beaux. J'ai toujours trouvé Brel très beau. J'ai toujours trouvé Gainsbourg très beau. Gainsbourg est arrivé à la maison. J'habitais rue de Verneuil à ce moment-là. Et il était d'une timidité, comme vous le savez, maladive. Vraiment maladive.
Qu'il masquait par un peu d'arrogance et d'agressivité,
rien,
non, même pas.
À ce moment-là, non, il était très, très, très jeune. Par le silence. Il ne parlait pas. Donc je lui offre un whisky, j'avais des grands verres comme ça, des grands gros verres gravés que j'avais achetés en Italie, qui étaient jolis. Et c'était des gros verres. Il prend son whisky dans la main, et il avait tellement peur. Il était tellement terrorisé que ses mains étaient trempées, et le verre a glissé de sa main, est tombé par terre et a explosé. C'était la pire chose qui puisse lui arriver. C'était abominable, c'était un poignard dans le cœur. Le lendemain, il m'a appelé, et il m'a dit, j'ai quelque chose pour vous. Puis, je lui ai dit, venez donc dîner. Nous avons dîné, j'étais déchaîné, c'était l'été, toutes les fenêtres étaient ouvertes, j'ai mis plein de disques, j'ai écouté plein de musique, puis j'ai commencé à danser. J'avais envie de danser, je devais avoir bu un coup de trop de champagne, et que je commençais à danser. Et puis, on a parlé, puis il est parti au petit matin, et le lendemain matin, il m'a rappelé. Enfin, le lendemain matin. Le matin, pour nous, c'était quand même genre 1h, 2h de l'après-midi. Et il m'a dit, j'ai quelque chose pour vous, j'ai fait quelque chose en rentrant. Et je lui ai dit, venez. Et il est arrivé et il m'a apporté la javanaise. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite,
le succès était immédiat pour la javanaise?
Non, pas immédiat. C'est venu tout doucement. Mais il y avait des amoureux de la javanaise.
Ah, tout de suite, il y a eu des adeptes.
Tout de suite. Mais alors, la javanaise, mais alors. Et c'était un petit cercle de gens. Et puis, c'est devenu. Voilà. C'était un bonheur que de chanter cette chanson, c'était un bonheur.
Donc le succès d'une chanson, c'est pas dans les 15 jours qui suivent la sortie, ça peut s'étaler sur.
Il y avait à peine une télévision, il devait y avoir une chaîne, quelque chose comme ça. La radio était accessible à tous. Il n'y avait pas de multinationales, nous étions des artisans. Le temps était plus long, peut-être. Mais il était plus sûr, plus beau et plus pur.
Vous retrouverez demain la suite de cet hommage à la chanteuse Juliette Gréco, enregistrée en 2001 au micro d'Hélène Azéra. À voix nue, réalisation Manouchak Fachaï, Anne-Pascale Desvignes, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.